Mes chers auditeurs, bonsoir. Nous continuons notre propos concernant un grand Algérien qui a vécu au XVIIe siècle, Abou l'Abbas Ahmed al-Maqarri, originaire de Magra, la ville de Magra, située entre Berika et Msila, et dont la famille s'est installée à Tlemcen, où il est né en 1578. Nous en avions parlé la semaine dernière, nous avions expliqué un peu dans quel contexte vivait l'Algérie à ce moment-là. C'était les débuts de la période ottomane, les débuts, c'est-à-dire on venait, l'Algérie était devenue ottomane depuis quelque chose comme 60 ans, une soixantaine d'années. L'Algérie était devenue une puissance sans conteste sur le flanc occidental de la Méditerranée. Et la guerre entre l'Algérie et l'Espagne continuait de plus belle. Et à cela, il y avait deux raisons. La première, c'est que l'Espagne était en mal de devenir une grande puissance. Donc il fallait qu'elle élimine la puissance algérienne en Méditerranée. Deuxièmement, l'Algérie était le pays de destination, ou l'un des pays le plus important, en tout cas, pays de destination des musulmans qui ont quitté l'Andalousie au moment où les Espagnols ont repris le contrôle de la péninsule. Et avec la chute de Grenade, la chute de l'État musulman omeyyade d'Occident. C'est dans ce contexte-là donc que notre écrivain, poète, juriste, Abou l'Abbas Ahmed al-Maqarri, voit le jour et va à l'école à Tlemcen et ensuite fait son petit bonhomme de chemin à travers le Maghreb, où il va au Qaraouien comme étudiant, où il devient enseignant, et même le sultan du Maroc, Ahmed al-Mansour, le charge de l'imama, donc il le désigne comme imam de l'université de Qaraouien, à Fès, et il devient son grand jurisconsulte. Seulement, la situation du Maroc, qui était beaucoup plus mauvaise comparativement à celle de l'Algérie à ce moment-là, puisque l'Algérie était devenue un pays stable, le Maroc connaissait une période de turbulence. Non seulement il était au nord, il était toujours dans le collimateur espagnol, mais il s'était donné des tendances impériales en voulant se constituer un empire au sud du Sahara, et il voulut joindre le Sénégal. Et c'est ainsi que le Maroc s'est lancé dans des entreprises militaires, parfois hasardeuses et parfois assez heureuse sous les Saadiens. C'est à ce moment-là que Al-Maqarri quitte le Maroc au moment de la mort du sultan Ahmed al-Mansour, son protecteur, et décide de retourner en Algérie ne serait-ce que pour un temps. La traversée par mer a failli tourner au désastre. Heureusement, le navire sur lequel il se trouvait, s'est retrouvé, a pu échapper à une tempête terrible, et il arrive à Alger, où il est reçu par toute la classe intellectuelle qui connaissait sa valeur et qui organisa à cette occasion, à l'occasion de sa, de son retour en Algérie, organisa une série de causeries et de grands débats autour de sujets très divers, aussi bien en littérature, en poésie, que en matière de droit et de jurisprudence. C'était en 1656. La même année, il quitte l'Algérie et se rend en Égypte, où il reste quelque temps au Caire, puis rejoint le Hijaz, où il fait son pèlerinage à la Mecque et revient. En 1619. Il y choisit une épouse, fonde une famille et entre à la mosquée d'Al-Azhar, à l'université d'Al-Azhar, où il ne s'occupe plus que d'enseignement. Et là, il rencontre la fine fleur de la société égyptienne et de la société musulmane qui se rendait à Al-Azhar, soit comme étudiant, soit comme professeur. Et il va sans dire que sa situation au Caire était une situation exemplaire et son importance dans la société intellectuelle égyptienne était telle que c'était un homme très sollicité. Et pour s'en convaincre, il n'y a qu'à reprendre les citations dont il a fait l'objet dans énormément de livres de biographie. Il se rend à Jérusalem, Beit al-Maqdis, où il va à la mosquée, s'installe là-bas pour y enseigner également, et également Beit al-Maqdis en Palestine est un pôle d'attraction pour les intellectuels arabes et musulmans, et de là il s'en va en Syrie où les intellectuels syriens lui demandent de leur enseigner le Sahih al-Bukhari, une somme de hadiths du prophète, et de les expliquer. Il le fait et se crée une assemblée à la mosquée Omeyyade de Damas, où se rencontraient ses propres élèves ainsi que beaucoup de professeurs qui se plaisaient à venir l'écouter. Comme dans toutes les universités du monde, la tradition veut que un professeur commence son cours par une leçon inaugurale et termine son cours par une leçon d'adieu. Il en fut de même pour le Maqarri, qui, au moment de terminer l'exégèse et l'explication du Sahih al-Bukhari, une cérémonie solennelle s'est déroulée à la mosquée Omeyyade de Damas, en guise de leçon finale ou leçon d'adieu concernant ce cours sur le Sahih al-Bukhari. Cette leçon d'adieu dura toute une matinée et paraît-il, c'était la première fois que cela se produisait. C'est à Damas que Al-Maqarri eut une grande activité intellectuelle et, avec l'expérience qu'il acquit au fur et à mesure de ses pérégrinations, de ses déplacements, de ses cours et de ses leçons données aussi bien en Algérie, au Maroc, en Égypte, au Hijaz, en Palestine et en Syrie, les intellectuels syriens lui demandèrent s'il lui était possible de composer une histoire de l'Andalousie, c'est-à-dire une histoire de la présence musulmane en Espagne, avec tout cela sous-entend en matière de littérature, en matière d'art et de culture. Il est vrai qu'une telle entreprise n'était pas facile, parce que chacun sait que l'activité culturelle en Andalousie était tellement dense, tellement importante, et s'étalant sur des siècles, il n'était pas toujours facile à un homme de réaliser une telle œuvre. Et pourtant, Al-Maqarri s'en acquitta d'une façon magistrale. Lui qui était connu pour avoir une mémoire étonnante. Je rappelle ce que je disais à la première émission. Il avait appris tous les ouvrages qui se trouvaient dans la bibliothèque du roi marocain Al-Mansour. Et il avait même dit, si cette bibliothèque venait à brûler, je serais capable de la dicter entièrement. Donc, il avait accumulé une masse de connaissances sur l'Andalousie, et ayant vécu à Tlemcen, le patrimoine andalou s'y était, j'allais presque dire transplanté, donc s'y était installé, et notre jeune Al-Maqarri ne s'en priva pas, puisque la somme qu'il nous donne dans son ouvrage Nefhat Tib, Bi-Ghusn al-Andalus al-Ratib, et surtout en accent tout son travail sur la vie d'un ministre très connu, Lisan al-Din ibn al-Khatib, cette personnalité également étonnante qu'est Lisan al-Din al-Khatib, Donc, cette somme qui constitue un ouvrage d'une quinzaine de volumes et qui a été entièrement dictée en l'espace de 2 ans à Damas, sans aucune référence, pratiquement, à des ouvrages connus, puisque tout cela était appris par cœur. Donc, cela démontre un peu la qualité du personnage. Et l'importance de ses écrits. Al-Maqarri est connu pour avoir composé cet ouvrage. Il est moins connu dans d'autres œuvres qui sont au nombre, selon certaines biographies, de 28 ouvrages. Certains sont encore à l'état de manuscrits, n'ont pas encore été imprimés. Par contre, d'autres ont été imprimés, réédités énormément de fois, surtout celles, les œuvres, j'entends, surtout celles concernant la jurisprudence. Il est moins connu comme juriste, et pourtant, il a été chargé de la fatwa en Égypte et au Maroc. Et son explication du traité de Sahih al-Bukhari démontre une profonde connaissance de la religion d'une part, mais également de la philosophie, puisque il a écrit un commentaire sur un ouvrage fondamental connu chez les musulmans et qui est Ummul Barahin fi ilm al-kalam. C'est un ouvrage de philosophie. C'est un argumentaire, si on veut. C'est un ouvrage de logique. Tel est donc Al-Maqarri, tel que nous le présente sa biographie. Ce fut un Algérien qui a connu tout le monde musulman, mais qui est resté attaché à l'Algérie, puisque nous retrouvons dans certains de ses poèmes une allusion à son amour de la patrie. Où il fait la comparaison entre l'air du pays qui pour lui équivaut à au plus fort des parfums et les vastes prairies du pays sont autant de paradis. Et il dit qutrun kana nasimuhu nafahatu kafurin wa miskin ka'anna zahra riyadhihi durrun hawa min nadhmin salikin. Al-Maqarri, après une vie bien pleine, une vie d'études et une vie de production intellectuelle, est mort au Caire en 1632. Ainsi se termine la vie de ce grand homme, et nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur Abu al-Abbas, Ahmed al-Maqarri, quand nous aborderons certaines personnalités d'Andalousie, parce que le nom de al-Maqarri est intimement lié à l'histoire de l'Andalousie, puisque il a pratiquement fait du journalisme historique avant l'heure. Je vous remercie. Bonsoir.